Je pense que peut-être rapidement, on va laisser tous les gens se présenter. Ça sera mieux, d'accord? Rapidement, une phrase ou deux, voilà. Ok?
Voilà.
Non, ok.
Allez. Alors, il y a des micros. Voilà. Rapidement, vous présentez.
Sinon. Ah bon, ben.
Ça va pas trop.
Vas-y, mets l'exemple.
Bon, alors apparemment, il faut que je montre l'exemple. Bonjour, ça fait un petit moment qu'on est là, donc je vais faire rapidement. Je m'appelle Mélisande, vous m'entendez bien ça? Je m'appelle Mélisande et je suis présidente de l'association Opal Rollist. Je pense que ça définit assez bien les choses.
Oui, bon, ça marche. Ben, rebonjour, donc je m'appelle Coralie, je joue depuis plein d'années. J'ai fait une thèse sur le jeu de rôle ici à Paris 13 en littérature comparée et je suis éditrice par ailleurs. J'ai commencé chez Black Book, j'ai fait un petit crochet par le roman chez Mnemos et maintenant je suis une des deux oreilles de Lapin Marteau avec Jérôme Larré et on édite des jeux et des bouquins sur la théorie de jeu de rôle.
Du coup, je m'appelle Audrey et puis je suis présidente d'une association de jeux de rôle en Suisse et puis je fais partie aussi du comité d'Orchidée qui organise donc une assez grosse convention de jeux de rôle, vous en avez peut-être entendu parler. Et je m'occupe principalement de la programmation de JDRID, donc de nos propres petites conférences en Suisse.
Moi c'est toujours Noémie, hein. Et j'ai aucun rapport avec la sphère associative du jeu de rôle, à part en tant que joueuse, même si j'ai aucune adhésion dans des associations. Donc je suis simplement universitaire, quoi. Enfin, aspirante universitaire.
Donc on voulait commencer par tout d'abord un panorama. Les joueuses, qui êtes-vous? Combien vous êtes? Est-ce qu'on le sait?
Alors, pour la Suisse, on a quelques chiffres. On a quelques chiffres parce qu'en fait, avec Orchidée et puis la façon dont on s'inscrit, on garde des traces des joueurs. Et donc, j'ai des petites mains qui ont fait du travail pour moi pendant la conférence. Et on en est arrivé... on n'a pas pour la participation, on pense qu'il y a entre 25 et 30% de joueuses. Et on avait 12% d'inscription de parties par des femmes. 12%, ça comprend le jeu de rôle, les ateliers GN qui sont proposés à Orchidée et théoriquement d'autres types de parties, mais je ne pense pas qu'ils sont utiles pour la conversation. Donc ça veut dire que c'était sur une huitantaine d'animations. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 8... animateurs femmes à Orchidée pour 80 animateurs. Et puis au niveau
80.
De pardon, au niveau associatif, pour dimensionner en tout cas, je peux vous donner des chiffres sur une vingtaine de membres. Il y a on est 5 filles en moyenne, donc un quart.
Bon, je vais essayer là. Le problème pour avoir des chiffres dans le jeu de rôle, et c'est quelque chose qu'avait dit Olivier Caïra, donc qui lui est sociologue et travaille beaucoup sur le jeu de rôle. Il avait dit, si quelqu'un vous donne des statistiques exactes sur la population de joueurs, de joueuses dans le jeu de rôle, ce sera soit un fou, soit un charlatan. Parce qu'en fait, quand on fait des études sur les rôlistes, on se confronte à une difficulté, c'est qu'ils sont difficiles à trouver. Donc vous pouvez essayer de les toucher par la presse spécialisée ou par les conventions, mais c'est qu'une petite, enfin une partie des rôlistes qui y va. Et vous pouvez avoir des gens qui vont jamais en conve et qui achètent pas Casus et qui vont jouer des années et beaucoup, et cela on n'arrive pas à les toucher, et dont certains groupes intégralement de joueuses de ce que j'ai pu croiser. Donc c'est difficile, surtout que on a l'impression que chaque période de jeu de rôle dit ah non mais maintenant il y a plus de femmes. Pour vous prendre un exemple, j'étais tombée sur un article de Darnesson, donc un des deux créateurs du Donjon et Dragon originel, qui disait ce qui a été vachement bien avec le jeu de rôle, c'est qu'il a apporté plein de femmes dans les conventions de wargame, quoi. Et puis après il y a eu Vampire, on vous a dit non mais Vampire ça a quand même apporté vachement de joueuses dans le monde du jeu de rôle, quoi. Et au final, c'est des tendances, c'est des choses qui se dégagent, mais est-ce qu'il y a une véracité là derrière, c'est très dur à dire. Et tous les chiffres que j'avais essayé de chercher quand j'avais travaillé sur la thèse, voilà, c'était toujours assez partiel comme source. Un truc qui est intéressant pour rebondir sur ce que disait Audrey, c'est que j'en discutais avec Marion Amar, qui, elle, a bossé dans ses études sur le genre, et qui disait qu'elle avait regardé pendant quelques années la fréquentation de la convention Grabuge, qui est à Carcassonne, et qu'avec les entrées et les noms, elle avait pu voir un petit peu, et qu'elle avait, constaté une augmentation vraiment significative. Mais bon, encore une fois, on est sur du local, sur une petite convention. Donc c'est super dur de dire qui on est, de dire combien on est, et comment ça évolue de façon très très précise, à part de nos propres expériences à toutes et à tous, quoi.
Donc là, on entend des chiffres, même si on n'est pas sûr, entre un dixième, un quart, mais pourquoi finalement, pourquoi si peu, le jeu de rôle n'intéresse-t-il pas le genre féminin?
On est toutes là, clairement. Donc le jeu de rôle intéresse très clairement les femmes. Ce que je me rends compte... si jamais il y a eu des échanges de mails avant la convention, puis il y a eu des personnes qui ont dit qu'elles jouaient dans un milieu principalement masculin, personnellement j'ai une amie qui joue que avec des gars, son groupe de jeux de rôle c'est elle plus plein de gars, et moi je joue tous les mardis avec un groupe qui est presque... Non, en fait, qui est majoritairement féminin. Donc, dans ma vie, en fait, moi, j'étais un peu en mode, hein, quoi, vous voulez dire que ça arrive qu'il y ait des tables où il n'y a pas de filles? Ce qui ressort, c'est que, bah oui, il y a des filles. Et en général, elles jouent avec d'autres filles. Et bah, des fois, les garçons ne sont pas au courant.
Ouais, il y a des tables, il n'y a que des filles.
Juste un retour rapide sur les chiffres. Le TIAZ a fait un petit sondage, en fait. Donc le nombre de répondants n'est pas énorme, mais ils ont comparé les chiffres de 2010 et de 2014 dans leur sondage, en gardant à peu près la même méthodo. Ils voient une augmentation de 4% dans le nombre de joueuses. Donc de 8% on passerait à 13%. C'est pas énorme, mais c'est pas forcément vrai, quoi.
Mélisande, tu vois toi en convention, quand tu...
Alors moi, ça fait déjà presque 3 ans maintenant que je vais en convention. Et on a des grosses conventions comme le Salon Fantastique, comme Geekopolis. Et c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée, je ne voyais pas forcément énormément de filles. Pourtant, il y avait une bonne mixité à Opal, dans les petites IRL qu'on fait avec les personnes du forum sur Paris. Et j'ai vraiment noté une augmentation, en fait, à partir du moment où je me suis occupée du Salon Fantastique en 2016. Par rapport à ce que j'avais vu à Geekopolis, effectivement, il y a une énorme mixité, mais ça va dépendre aussi de l'ambiance, ça va dépendre du lieu, ça va dépendre des personnes touchées. Je rebondis sur ce que disait Coralie, effectivement, il y a des personnes qu'on ne touche pas. Puis après, voilà, la population rôliste, elle se définit pas seulement par le fait qu'on soit rôliste, il faut aussi définir la pratique. Il y en a certains qui vont dire « je suis pas rôliste ». Et donc, du coup, quand vous voyez un sondage passer, eh ben, ils vont pas répondre. Et donc, du coup, on ne peut pas les toucher, en fait. On ne peut pas réussir vraiment à quantifier.
L'autre truc, c'est qu'avec le côté social du jeu de rôle, c'est qu'une année, vous aurez un certain nombre de filles. L'année suivante, il y a quelqu'un qui vient avec ses copines. Elles jouaient déjà avant. C'est juste que ben, là, elles sont visibles. Et puis, vous avez peut-être eu une grosse augmentation, alors qu'en fait, ça veut juste dire qu'il y a un groupe qui est venu.
Donc peut-être on peut passer à un point suivant. Donc on avait discuté entre nous. Il y avait sur les représentations des femmes dans le jeu de rôle, donc à la fois sur les icônes, sur les personnages pré-tirés ou les choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ça évolue, ça évolue pas?
Là, c'est vachement plus facile de trouver des sources. Donc, quand j'ai bossé sur la thèse, j'avais essayé de faire cette étude comparée juste sur des premières de coups. J'en avais pris entre 200 et 300 que sur des livres de base. Et on a vraiment des archétypes qui se dégagent. Alors, soit les grands classiques, hein, soit on va représenter la femme avec un homme un petit peu comme un trophée ou comme un joli accessoire que tout héros qui réussisse devrait d'avoir avec lui. Il va avoir quelques femmes guerrières assez tôt, notamment la queue de RuneQuest, je sais plus qui c'est qui l'a montré tout à l'heure, je crois que c'est Vivien. On a une Amazon dessus qui est pas spécialement hypersexualisée, et puis bon, on a évidemment la grosse tarte à la crème dite du Stringer Mithril, où on va avoir voilà des héroïnes vraiment hypersexualisées qui vont être représentées. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, on va dire, je dirais à la fin des années 2000, en tout cas sur les blockbusters, notamment avec des réactions de game designers qui sont un petit peu connus, qui sont engagés là-dessus. Je pense notamment à Monte Cook, hein, qui est un des trois grands game designers de Donj 3, qui disait qu'il y avait un truisme qui roulait, enfin qui se disait dans les couloirs des grosses boîtes d'édition qui faisaient ces jeux, qui était que le personnage qui devait être représenté devait être donc un homme blanc de toute évidence hétérosexuel, alors que quand même on parle d'un jeu où on va aller jouer des elfes, des extraterrestres et des gens qui sont censés être différents de nous, et ça le rendait un peu fou, cette contradiction. Et donc ça a pas mal bougé. Si vous regardez notamment les coups de Pathfinder, ils ont certains personnages archétypaux, et sur, je crois que c'est Ultimate Campaign, ou en tout cas un bouquin important, il y a cette fameuse paladine noire qui est pas mal représentée sur les bouquins, quoi. Ça, c'est un truc qu'on n'aurait pas vu avant. Donc voilà, notamment au niveau des gros jeux, j'ai eu l'impression que ça a quand même pas mal bougé. Il y a encore des tartes à la crème qui se baladent, mais je trouve que cette prise de conscience, notamment dans les grosses boîtes, parce que évidemment chez les gens indés ou qui font des jeux qui sont engagés politiquement sur ces sujets, évidemment la prise de conscience est là. Niveau visibilité, j'ai l'impression qu'il y a, enfin de ce que j'ai vu en tout cas, de ce que j'ai examiné, il y a quand même du changement à ce niveau-là.
C'est dommage que Isabelle Perrier soit pas là, parce qu'elle avait expliqué qu'elle poussait à ce qu'il y ait plus de prêt-tirés intéressants pour les femmes. Est-ce qu'on sort de la prêtresse guérisseuse ou je sais pas trop quoi. Est-ce que vous voyez une évolution de ce côté-là pour attirer à incarner des personnages différents, des stéréotypes classiques?
Alors, je peux pas parler pour la scène française, mais sur la scène américaine, on voit apparaître un truc, c'est les jeux où on joue plus que des filles. Principalement les jeux propulsés par l'apocalypse, on a Night Witches, où on joue des aviatrices russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a Bluebeard's Bride, où on joue la fiancée de Barbe Bleue qui va finir... elle finit mal, de toute façon. Et puis, des jeux qui, non seulement vous encouragent à jouer que des personnages féminins à la table, mais aussi vous encourage à explorer qu'est-ce que c'est, les problèmes d'être une femme pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'elles ont que du matériel pourri et que tout le monde les regarde de haut, dans le truc de la Barbe Bleue, parce que forcément les actions ont été super bien réfléchies. Si vous avez fait des études de genre, que vous regardez ce jeu, c'est incroyable comme les actions que vous avez à votre disposition sont vous confine dans ce rôle de femme parfaite, un peu de comme il était perçu avant. Donc il commence à y avoir des réflexions sur ce truc, mais en même temps on a toujours des jeux par exemple édités par le Manoir du Crime, mais c'était quoi ce jeu, La Garde,
Légende de la Garde,
Wasburg, qui dit vous allez jouer aucune femme dans La Garde, il y a pas de femme. Ou il me semble que j'ai... Ça ne me revient pas, mais on a encore des trucs où si vous jouez une femme, vous êtes plus faible, ou vous êtes plus dans un rôle féminin de personne qui n'est pas une guerrière. Mais franchement, il y a une assez grosse amélioration. Au moins, on s'évanouit plus. Enfin, on n'a plus besoin de faire un jet pour éviter de s'évanouir quand il se passe des trucs un petit peu trop d'aventure.
Sur Wasburg, c'est quelque chose qui a été changé après dans le jeu. Effectivement, on lui a fait remarquer, et Cédric Ferrand a fait en sorte que du coup il y ait carrément en plus un scénar où il y avait l'introduction des femmes dans La Garde, effectivement. Mais c'est vrai que le genre, il est pas mis en jeu, en fait. Soit on fait comme si ça existait pas, et puis en gros dans le jeu on va juste rien dire dessus, en fait. Donc on va faire comme s'il y avait une apparente neutralité, éventuellement se cacher derrière les règles de l'univers si jamais on veut faire jouer des choses un peu sexistes sans avoir trop à les justifier, le fameux vous savez c'est pas moi c'est l'univers, mais ouais, c'est soit soit neutre, et quand c'est mis en jeu, soit c'est très important comme thème, donc tu as cité Nightwishes, c'est super intéressant parce que il y a vraiment des conseils aux meneurs de jeu qui sont là, mettez leur genre sur le tapis, par exemple si elles passent devant une section d'aviateurs mâles, ils vont les siffler, ils vont les emmerder, donc ça rentre vraiment au cœur du jeu en fait, et très souvent voilà, dans les jeux indés ou qui vont se consacrer vraiment sur ce thème, il va avoir une vraie mise en jeu, une vraie réflexion de game design de comment on joue avec ça. Par contre, c'est vrai que sur les jeux, on va dire plus mainstream, c'est soit neutralisé, on n'en parle pas, on prend pas position. C'est pas tout le temps vrai, hein, mais la grosse tendance est encore là-dessus. Par contre, on voit quand même moins de plus en agilité, moins en force et ce genre de trucs qu'on voyait sur Bitume, notamment un peu dans les années 80, quoi.
Donc la structure de jeu, elle est porteuse du coup de stéréotypes sexistes et tout, mais ce qui est aussi à mettre en avant, c'est que les joueurs ne vont pas forcément s'entre-sanctionner lorsqu'il va y avoir un comportement sexiste ou justement que ces règles sexistes vont être appliquées. Et ça, c'est quand même super important parce que ce sont les joueurs qui font le jeu, c'est pas juste seulement le jeu qui va dicter, on est tous d'accord, quoi. Et à partir du moment où les joueurs sont incapables, entre guillemets, de se contrôler, mais de se mettre des holà et de se dire « bon, ce comportement a été sexiste, il doit être sanctionné par diverses façons », on ne va pas réussir à vraiment progresser ou à impacter et qu'il y ait une vraie évolution positive dans le jeu. Donc il ne faut pas juste attendre, c'est un peu une injonction, quoi, il ne faut pas juste attendre qu'il y ait un changement au niveau de l'écriture et des structures de jeu.
Dernier élément qui est intéressant quand même par rapport à la place des femmes dans le jeu de rôle, c'est tous les textes d'exemple qui en général ont un protagoniste masculin. En tout cas dans ma dernière version de, par exemple, bon, ça remonte un peu, mais dans ma dernière version du Monde des Ténèbres, on a clairement un investigateur qui teste les trucs. Même si maintenant de plus en plus, je suis tombée sur des jeux où il y a toujours deux personnages pour l'exemple et puis il y a un personnage féminin et un personnage masculin, et ça c'est assez cool parce que les textes d'exemple, ça représente un peu quand même le type de situation qu'on va pouvoir retrouver en jeu, et s'il n'y a jamais une seule fille, ça n'encourage pas exactement à faire des personnages féminins.
Vous ne croyez pas aussi que ça vient du fait, par exemple, qu'on dit toujours les filles ont plus de facilité en fait à jouer des personnages masculins? Et les hommes, et encore on a vu pour le GN, là où en fait, bon, il faut apprendre à marcher comme une fille ne se demande pas si elle doit apprendre à marcher comme un homme, et en fait, il y a encore toujours cette idée, même chez les hommes, en disant, ouais, mais moi je ne saurais pas jouer une fille, comme si en fait, alors évidemment, il y a des questions de genre qui sont importantes, mais par ailleurs, il y a pour certaines actions où on n'a pas besoin de savoir si on est une fille ou un homme, c'est simplement en fonction de notre psychologie, notre physique ou des choses comme ça, ou je veux dire au sens de force, petit, grand, voilà. Est-ce que ça, c'est pas non plus aussi quelque chose qui est vraiment important sur cette reconnaissance aussi des personnages féminins?
Je vais dire oui et non, parce qu'en fait, il y a une chose qui est intéressante, que j'avais entendue il y a 2 ans, il y avait une personne qui ne savait pas comment jouer un elfe. Donc jouer un elfe, jouer un nain, jouer une femme, c'est effectivement pas forcément ultra important, le but c'est de se faire plaisir à la base. Le problème c'est quelqu'un qui va rentrer trop dans le roleplay, qui va absolument faire un cliché en fait de la femme, ou qui va vouloir avoir certaines manières. C'est intéressant, parfois ça, c'est un peu le problème, c'est que ça va rallonger la partie, ça va rallonger aussi les actions. Ça peut être intéressant, ça dépend du jeu, mais ça dépend aussi du contrat social qui était posé à la base.
L'autre truc, c'est que en fait, les mecs, vous êtes chouchoutés par notre culture qui a décidé que, par exemple, les super-héros seront tous des gars, parce que c'est les gars qui vont voir les films de super-héros, ils traîneront éventuellement leurs copines, mais il n'y a surtout pas besoin que les gars aient voir des super-héroïnes, parce que déjà, ils viendront pas. Et puis, pourquoi est-ce qu'on les obligerait à se mettre dans la peau d'une femme? Donc, en fait, un des phénomènes qu'on voit, c'est que ce phénomène qui existe dans la littérature et dans le cinéma, finalement, envahit aussi le jeu de rôle. Et les gens prennent pas la peine de se dire, mais en fait, les gars, ils pourraient aussi lire des trucs qui s'adressent aux femmes et faire le pas de se dire, ça s'appliquerait aussi à moi et ça s'appliquerait aussi à moi. Plutôt que d'avoir que les filles qui ont toute leur vie lu des trucs où il y avait tout type de personnages, puis qu'on dû se dire ça s'applique à moi, et puis le héros c'est Aragorn, mais je suis aussi capable de me dire que je suis aussi capable de voir dans quelle mesure il a des valeurs que je partage, et puis des idéaux auxquels je peux croire.
Puis
comme de toute façon on est dans une société patriarcale, c'est le masculin blanc notamment qui est la référence et qui est considéré comme, comme le neutre. D'où en fait l'intérêt d'utiliser le neutre féminin qui est génial, bravo. Et donc du coup, c'est la question des représentations tout simplement. On voit des hommes partout, donc en tant que femme, on se pose même pas la question de se dire on peut ou on peut pas incarner un personnage masculin. Tandis que à l'inverse, un homme qui n'a pas l'habitude de se projeter, de suivre les aventures d'une femme, va vraiment avoir un, presque un, même moi sur mes tables, je l'ai rencontré, un blocage mental à dire non mais moi je peux pas faire une femme quoi. Ou ça va de suite être assimilé à une volonté de... Comment dire ? Non, pas une volonté, mais à une, un aveu, en fait, d'homosexualité, quoi. Donc, les deux, la question de la féminité et de, du jeu d'homosexualité, je l'ai vu parfois dans mes tables, quoi. Ce qui est aberrant, mais...
Vive la convergence des luttes, mais... quand j'avais fait un master édition, on avait des cours de web avec une web designeuse, et puis elle dit... pourquoi elle vient nous parler de ça, elle faisait des jeux vidéo, elle avait bossé dans le jeu vidéo, elle dit la règle, si vous faites des jeux vidéo pour, je crois qu'elle m'avait dit 8-12 ans, vous ne faites jamais un personnage principal féminin, jamais. Parce que les petites filles, elles sont capables de s'identifier éventuellement aux petits garçons, mais pas le contraire. Bon, après, je sais pas quelle était exactement sa connaissance dans le jeu vidéo et tout ça, mais elle avait bossé dedans, elle m'avait sorti ça et j'étais. C'est, ça m'avait fait. Enfin, j'y croyais pas. Et apparemment, elle disait que c'était une règle marketing. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé le jeu de rôle, je jouais avec autant de femmes que d'hommes. Et c'est vrai, quand je me suis retrouvée en convoyeur à jouer avec des hommes qui, quand ils tiraient le pré-tiré féminin, faisaient un. Et poser des questions du type à la table et avec des bonnes intentions, parce que il y a effectivement le rejet dont tu dont t'as parlé, Noé, et puis il y a le mec qui veut pas mal faire quoi, il y a le mec qui a peur d'être dans la caricature et tout ça, et qui en gros va être super inhibé parce que il va avoir peur de faire que des conneries. Et à Guts notamment, joue à Guts, et puis il y a un joueur qui avait tiré le perso féminin qui elle a une espèce de feature qui fait que quand elle est au volant de son avion, elle se majorait comme un charretier. Et là, au moment de jouer, le joueur se décompose et dit « Mais je sais pas comment les femmes, elles insultent. » Et il avait l'air vraiment désemparé. Et je lui ai dit « Mais c'est normalement, tu vas voir, ça va bien se passer. » Et il y avait une réelle détresse de sa part, quoi. Et effectivement, il y a un vrai tabou. Il y a encore un vrai tabou là-dessus qui est assez bien implanté. Et c'est assez impressionnant. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a d'une part une espèce de gêne, et d'autre part, après, oui, des gens, comme tu dis, qui par contre sont beaucoup moins gênés et qui hésitent pas dans la caricature. Enfin, moi, plein de fois à ma table, bon, quand j'étais un peu plus jeune, mais qu'est-ce que j'ai eu comme lesbienne nymphomane jouée par des mecs. Je pense que voilà, on en a tous eu, mais voilà quoi. Après, peut-être. Hein ? Non, non, j'ai arrêté. Et donc ouais, il y a plein. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont à l'origine de ça. Effectivement, une honte d'être démasculinisé, dévirilisé par ça. D'un autre côté, des gens qui sont un petit peu déconstruits là-dessus et des mecs qui veulent essayer de bien faire, qui ont tellement peur de se planter qu'ils osent pas. Et au final, il y a encore ouais beaucoup d'inhibition, beaucoup et beaucoup d'incompréhension sur tout ça quoi. Et à contrario, un manque de prise de conscience sur des trucs vraiment évidents, mais je pense qu'on en reparlera peut-être, mais sur tout ce qui est sexisme, justement, notamment en conv autour de la table, qu'est-ce qu'on aborde ou pas comme sujet et comment on les aborde quoi.
Ouais, j'allais dire, il y a aussi beaucoup de gars qui jouent d'horribles clichés sexistes et qui se rendent même pas compte que ce sont d'horribles clichés sexistes. Genre, on parlait des représentations avant sur les couvertures. Je connais des gars, ils font des personnages féminins, elles ont un bikini en maille, elles sautent sur tout ce qui bouge, elles ont qu'une envie, c'est aller faire du shopping et puis s'habiller en rose. Et puis c'est limite, c'est presque insultant pour les filles qui sont autour de la table et ils s'en rendent pas compte.
Je crois que c'est le cas aussi ce qu'on avait avec Barbarian of Lemuria. Sur la première couverture, effectivement, il n'y avait qu'une femme qui était en petite tenue et qu'il fallait absolument aller sauver. Moi, je connais une personne qui a vu la deuxième édition et il a demandé en fait au dessinateur, il m'a dit, alors moi, je veux le contraire. Moi, je veux une femme super forte, bien habillée, qui va sauver un homme en petit bikini.
Mmh. Là, je me tourne vers l'audience. Est-ce qu'il y a peut-être une question ? C'est pas interdit, c'est même encouragé. Là, je vois quelques mains qui se lèvent. Alors, je pense que je vais aller apporter le micro.
Non, non, rapide. C'était une remarque en fait. Je me demandais, c'était, enfin, sur les travaux que j'ai fait sur le jeu vidéo. En fait, ce que vous dites est contre-intuitif par rapport à ce que je supposais, c'est-à-dire donc c'est probablement vrai, mais dans le cas des MMO par exemple, quand vous faites des statistiques, vous vous rendez compte qu'en réalité, les filles plus que les garçons jouent des personnages féminins. En fait, plus qu'elles ont une homologie en fait structure, enfin de genre on va dire, et que les garçons en fait s'autorisent plus que les filles à jouer le genre opposé. Et c'était d'autant plus fort quand on regardait sur les types d'avatars humanoïdes, non humanoïdes, où encore une fois les joueuses avaient plus tendance que les garçons à prendre en fait des personnages humanoïdes. Donc je me demandais, est-ce qu'à votre avis c'est en fait qu'est-ce que c'est qui crée que dans le cas particulier du jeu de rôle en fait ce serait l'inverse, c'est-à-dire que, ce serait, que les filles seraient entre guillemets plus souples en termes de genre que les garçons, alors que dans le jeu vidéo et le MMO c'est plus rare. Alors juste ce qui est intéressant, c'est que le MMO, il y a une association structurale, c'est-à-dire le guérisseur, tout ce qui est soins, tout ce qui est care en fait est souvent associé à des personnages féminins, et donc du coup quand on fait des entretiens avec les joueurs, en fait ils se disent, moi j'ai choisi un personnage féminin parce que je voulais un soigneur, donc il y avait une espèce d'association entre le genre et la fonction. Mais voilà, donc en tout cas ce que vous dites, c'est que c'est l'opposé de ce qui se passe dans le jeu vidéo, et la question c'est pourquoi. Voilà,
c'est pas ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est que c'est plus facile pour une femme, enfin que les femmes ont l'habitude de faire l'exercice d'aller chercher dans un personnage masculin qu'est-ce qui leur ressemble, et que les hommes n'ont pas souvent l'habitude de faire l'exercice. Qu'en marketing, on va, par ça j'avais aussi vu ça pour les livres pour enfants, qu'en marketing on va plus facilement dire aux gens ayez un personnage masculin, parce que les garçons ne feront pas l'effort de se mettre derrière un personnage féminin. Mais l'idée, c'est quand même que la plupart des gens veulent jouer des trucs qui leur ressemblent. Et puis moi, je me souviens que quand j'ai commencé à faire du jeu vidéo, j'étais déjà tellement contente qu'il y ait un ou deux personnages féminins dans le choix, que je choisissais tout le temps ceux-là, parce que j'étais une fille, puis il y avait des filles, et puis elles étaient déjà pas nombreuses, donc il fallait bien que quelqu'un les joue.
C'est une question de rareté.
Donc, ouais, et puis... L'autre partie de la question, c'est que je pense que je suis pas sûre que les gars jouent des personnages féminins avec les mêmes buts que une fille joue un personnage masculin. Je pense que, de nouveau, il faudrait des statistiques, il faudrait regarder. Je vais probablement dire une connerie, mais je pense que il y a plus un côté je pars en vacances. Quand un mec joue un personnage féminin ou d'une race alien ou je sais pas quoi, et il y a peut-être plus un côté je veux qu'on me fiche la paix quand une fille joue un personnage masculin, et que du coup on le fait pas pour les mêmes raisons, mais je pourrais pas garantir, il faudrait que quelqu'un fasse une étude sur le sujet.
Attends,
il y a peut-être plus d'hommes qui... Tu dis qu'il y a peut-être plus d'hommes qui jouent des personnages féminins dans des MMO que dans des jeux de rôle. Mais le truc, c'est que justement, dans des jeux de rôle, tu dois jouer un rôle. Et si tu joues le rôle d'une femme, mais peut-être que c'est parce que tu es gay. Tandis que dans un MMO, c'est un avatar. Tu ne joues pas son rôle, tu n'es pas cette femme. Tu la fais bouger, tu la marionnettises, tu la contrôles. Tu es viril, tu es fort, tu contrôles cette femme. C'est une théorie qui me vient comme ça, mais je pense que, et ça n'engage que moi, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans sur les différentes statistiques.
Je suis assez d'accord avec ce qu'elle vient de dire.
Merci Stéphanie. Juste une des premières qui avait levé la main, je t'en prie.
Bonjour, je vais réagir sur plusieurs plans, il y a plein de trucs qui sont... Mais je vais essayer de faire court. Première chose, je suis relie depuis la Saint-Glinglin, et moi, un truc qui m'a choquée à table, et une des premières expériences que j'ai vécues, quand j'ai fait un personnage féminin, et que j'ai fait une action, on m'a dit « mais c'est pas comme ça qu'on joue une fille, t'es pas crédible ». Et là, j'ai fait... Voilà, donc
j'ai juste une question, c'est un homme qui t'a dit ça ?
Bah oui, of course.
Et tu lui as répondu quoi en fait ?
J'ai dit, bah, je pense que, enfin, je pense que je suis assez crédible dans mon intégrité personnelle. Voilà,
vous n'avez pas les mêmes attributs.
Quoi. Non. Mais alors, du coup, en fait, c'est parce que j'avais décidé de réagir. Mon personnage avait été offusqué par la réaction du personnage en face. Et au lieu de réagir en le séduisant ou un truc comme ça, en fait, elle lui a mis un coup de poil. Et c'était pas crédible, le coup de poil. Ah, moi, je trouvais ça super crédible.
Il a pas vu Vikings. Non, mais...
c'était un exemple. Mais c'est juste pour dire que du coup, je trouvais ça un peu contradictoire à ce que vous disiez tout à l'heure, dans le sens où vous disiez que les hommes jouent pas des femmes. Ils jouent des femmes fantasmées. Ils jouent des femmes fantasmées. Et du coup, avec ou sans complexe, hein, soit... Moi, j'ai pas de souci. Effectivement, le fait qu'il y ait du cliché, que ce soit lié à l'univers, j'ai pas de souci. Mais du coup, ça veut dire que quand moi, je vais jouer une femme telle que j'ai envie de la jouer... en fait, j'ai plus le droit parce que ça rentre pas dans ce paradigme, mais ça, c'est très bizarre. Enfin, c'est ce que j'ai vécu. C'est un peu. Voilà. Et je voulais juste réagir aussi, je termine là-dessus, sur le MMORPG, parce que je suis pareil depuis plus de 10 ans. Et j'ai pas vu les mêmes stats que vous, quoi. J'ai vu énormément de gars qui jouaient des filles. Parce que c'est super joli à regarder. Parce que quand t'es une fille, bah, tu te fais grouper facilement. Et parce qu'une des règles sur Internet, c'est un avatar féminin, c'est un joueur masculin. Donc moi, je dois lutter pour qu'on me croie quand je dis que je suis une fille. C'est juste... non, mais c'est vrai. Mais non, mais t'as fait un personnage féminin pour qu'on t'aide. Non, non, je me débrouille toute seule. Merci, c'est gentil. Et du coup, c'est vrai que c'est... et c'en est perturbant dans ce sens-là où, ben, dans les deux expériences que je vous dis, en fait, être une fille, c'est pas légitime. En fait, c'est pas vrai. Et c'est très perturbant. C'est très perturbant, quoi, par rapport à ça.
Okay. Ouais, parce que t'as des codes qui sont évidemment plaqués. Enfin, ça ça paraît évident de dire ça, mais c'est sûr que même tout à l'heure, quand ça me demandait, les filles elles aiment pas le jeu de rôle, mais culturellement il y a toujours aussi le côté, vous savez, les filles elles sont littéraires, elles aiment pas les maths. Franchement, tous ces decks, ces chiffres sur ces fichiers personnages, on comprend pas, quoi. Non, mais voilà, il y a tous ces trucs là et tous ces clichés, on va dire les soft clichés du genre si Taylor tu vas jouer une fille et tout ça. Bon, moi le MMO je connais beaucoup moins, donc je veux pas me prononcer dessus et dire des bêtises dessus, mais je pense qu'effectivement la représentation imagée d'instinct, je dirais que forcément ça joue, et de ce que je connais du MMO, même si je connais beaucoup moins niveau roleplay, à part quelques serveurs dédiés, la pratique générale, j'ai pas l'impression que ce soit qu'il y ait énormément de serveurs roleplay. Moi, de ce que j'ai vu du WoW, j'ai vu du Ion, j'ai vu du Star Wars là, et j'ai l'impression que ça existait mais que c'était pas une majorité. Donc du coup, la communication que tu fais et peut-être pas tout à fait la même, tu vois, peut-être que ça vient de là, mais après c'est toujours ces problèmes de clichés qu'on va t'appliquer de toute façon malgré toi et au-delà du jeu. Et le vrai problème qu'on a pour moi aujourd'hui dans le jeu de rôle et que j'aimerais bien arriver à résoudre, c'est que quand je suis en convention et que notamment si je suis une joueuse qui est pas expérimentée avec que des mecs qu'elle connaît pas, quand elle se prend une réflexion sexiste à la table, comment elle peut réagir? Parce que ça, on répond pas bien à la question. Ouais, j'ai des joueuses qui viennent me voir après les parties, qui disent qu'elles ont passé des parties de merde ou moyennes à cause de ça, et elles savent pas répondre, et c'est très difficile de leur donner les clés pour répondre. Et j'aimerais vraiment qu'on trouve des solutions concrètes à ça, quoi. Typiquement, le pas moi, c'est l'univers, il y a de la discrimination, c'est comme ça. Un premier palier qu'on peut se mettre, hein, c'est dire ouais, mais il y a des discriminations que les gens ils vivent tous les jours dans leur vie, quoi. Donc fais attention quand tu joues avec ça, parce que quand tu discrimines une femme qui joue un perso féminin, c'est peut-être des choses qu'elle prend dans la gueule toute sa vie. Enfin, et ça, j'ai l'impression que ça serait une première clé pour désamorcer ça. Parce que on a vu des choses horribles, quoi, avec du genre le bizutage de certains clubs de jeux de rôle. Première partie d'une joueuse, c'était un viol, quoi, histoire de bien poser les bases, quoi. Quand t'as 14 ans et que c'est ta première partie, on citera l'excellent et merveilleux blog Et pourtant elle joue, qui est une initiative vraiment vraiment merveilleuse. Mais moi, enfin, la vraie question que je me pose aujourd'hui, on est tous plus ou moins d'accord que dire que ces comportements ils sont pas bien, mais la première chose, c'est voilà, maintenant comment on va lutter contre ça. Est-ce qu'on, je sais pas, on imagine, mais est-ce qu'on met des personnes dans les conventions refuges avec qui on peut aller discuter, qui pourraient être des alliés s'il y a un souci? Est-ce qu'on se rapproche d'associations, on essaye de créer un site pour quand ça se passe, et ben en fait il y a des moyens d'action légaux et qu'on puisse vraiment réagir, voilà, comment on met tout ça à place et comment on agit, parce qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on est vraiment en marche cassée, quoi. On va se parler entre nous de lui c'est pas bien, lui ce qu'il fait ça va pas, mais la vérité c'est, j'ai l'impression, hein, qu'on on trouve pas encore de vraies solutions à ces problèmes. Et l'autre truc qu'il faut se dire aussi, c'est que sur les luttes contre les oppressions, on peut tous se planter. Il n'y a pas des gens sexistes et des gens pas sexistes, des gens racistes, des gens pas racistes. Mais à un moment donné, on va faire partie d'une catégorie dominante pour quelque chose et on peut se planter. Parce que les gens tout de suite vont se défendre et c'est là que la communication se plante. Ah non, mais moi je suis pas sexiste, je suis pas raciste. Mais d'accord, mais à un moment tu as une attitude, tu t'en es pas rendu compte, t'as pas mis cette intention là, mais elle m'a blessée. Et il faudrait vraiment désamorcer ce truc pour expliquer aux gens que tous on peut se planter et quand on appartient à une catégorie dominante, accepter avec humilité de dire oui j'ai besoin de me déconstruire et oui encore il arrive de me planter et oui j'ai pu t'offenser quoi. Et déjà si on arrive à faire passer ce message là sans agressivité en maintenant le dialogue, ce sera bien. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est encore un peu difficile en fait quoi.
Sachant qu'en plus, le sexisme est beaucoup plus normal que le racisme dans le milieu du jeu de rôle. C'est-à-dire que c'est une remarque sexiste, elle va passer ni vue ni connue. Et une remarque raciste, il va y avoir des regards. Attends, est-ce que ça passe? Est-ce que. Non? Enfin, moi je le sais, je l'ai vécu, mais les gens se posent toujours la question par rapport au racisme. Alors que le sexisme, ben non, c'est dans le jeu, c'est pas grave, c'est l'univers, c'est.
C'est, ça,
ouais. C'est beaucoup plus spontané.
Faut pas oublier une chose, c'est David Perron qui décède en 2015, que le jeu de rôle, ça a quand même beaucoup commencé dans un milieu où c'était très informatique, très ingénieur, avec énormément de garçons. Le jeu de rôle commence à évoluer. Il y a encore des gens qui ont du mal, qui n'ont pas l'habitude d'interagir avec des femmes, avec des filles. Moi, j'ai pas de soucis sur Meta parce qu'ils ont tous des règles sociales. Ils savent se comporter, ils savent qu'il y a une fille, ils savent qu'ils doivent faire attention. C'est pas qu'on est faible ou qu'on est fragile, juste faire attention à je joue un rôle, je joue pas un rôle hypersexualisé, j'ai pas envie d'être offensant envers la personne. Donc ça, c'est encore des mentalités qui ont besoin de changer. Faut pas oublier non plus que la plupart des garçons jouent entre eux. Et puis après, maintenant, il y a des nouvelles générations. On a des garçons qui arrivent. Maintenant, c'est qu'une question de formation, je pense. C'est ce que tu disais, Coralie. On veut faire passer un message. Il faut former, il faut aussi expliquer, parler avec les gens. Je pense qu'on n'a que cette solution-là pour faire avancer les choses.
Moi, je voulais juste répondre à Coralie qui demande qu'est-ce qu'on peut faire en convention, nous, filles, quoi, comment on réagit. Et je pense qu'en fait, Jérôme y a répondu tout à l'heure. Est-ce que c'est pas le moment où on se fait des ateliers où on apprend à réagir à ça pour qu'à un moment, il n'y ait plus de... Je ne sais pas quoi répondre à ce truc-là. Quoi. Et je vais en profiter tant que j'ai le micro juste pour dire aussi merci beaucoup à toutes.
Ben de rien. Oui, effectivement, c'est un des moyens. Nous, l'atelier qu'on a pour ça, c'est le contrat social. Et moi, pour une partie de conve, j'aurais envie de dire, ben voilà, moi, enfin, si je suis MJ, voilà, moi, je dirais, par exemple, pas de viol dans mes parties. Je sais pas ce que les gens ont vécu. Il n'y a pas de viol dans mes parties. Pareil, j'irais pas discriminer quelqu'un sur son personnage si, par exemple, c'est sur son physique ou sur son ethnie. Peu importe, je le ferai pas. Et ça, je pense que c'est bien de le poser et de dire, moi, je ne le ferai pas, vous ne le faites pas non plus. C'est un contrat social que j'aurais tendance à mettre en conve. Alors, ça peut poser un froid, mais c'est effectivement un moyen que je dirais. Sur le coup de l'univers, pour moi, la seule bonne raison pour qu'un univers soit sexiste, c'est parce qu'il permet de mettre en valeur des personnages féminins forts, CF, Trône de Fer. On regarde le dernier teaser, il y a Daenerys, il y a Brienne, il y a Sansa, il y a Arya, voilà, et on se dit, ah tiens, c'est un univers sexiste, mais qui fait émerger des personnages forts. Moi, c'est le seul moment où je dirais, voilà. Et effectivement, t'as raison, je pense que si en début de partie de conve, on pouvait juste dire ce genre de phrase, ça pourrait peut-être régler, mais il y a des gens qui le prendront peut-être comme... Voilà, et puis oui, il y a la carte X, il y a la fameuse carte X et carte E qu'on peut lever, voilà, je veux que cette scène soit sapée, non, je veux pas que ce sujet soit abordé...
Moi, j'ai deux petites questions. Je m'excuse, hein, deux petites questions. Une première sur la communauté, enfin la communauté rôliste en général. On a vu dans le jeu vidéo, il y a pas mal de réactions de haters vis-à-vis des gameuses qui sont intervenues, qui ont posté sur le net ces dernières années, notamment par rapport au blog, ce qui est sorti et pour toi elle joue, qui est super intéressant. Quelles sont les réactions en France ou de manière plus générale par rapport à ça? Est-ce qu'on a les mêmes phénomènes sur Internet, sur Facebook ou autre, de haters et de réactions sexistes et etc. Ou est-ce que c'est plus calme ou plus en train de se déconstruire ou autre? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est justement par rapport à une question de game design, par rapport aux univers discriminants, justement, parce que je suis en train d'écrire un truc qui se passe à l'époque victorienne, au sortir d'une guerre mondiale, avec justement les femmes qui ont pris énormément de place pendant cette guerre, qui il y a des faits les personnages féminins forts parmi les PJ, mais une société qui est encore de caste et d'ailleurs enfin qui est une société discriminante, pas seulement vis-à-vis des femmes, mais il y a une différence entre les honnêtes gens et le peuple et les femmes et la racaille d'un côté, enfin et les femmes quelque part sont aussi discriminées et c'est un élément important. Je peux pas en faire le propos central du jeu, mais je voudrais pouvoir jouer avec ça tout en ayant des personnages forts. Est-ce que vous auriez des conseils de game design ou de choses vraiment qu'il faudrait que je fasse ou que je ne fasse pas du tout parce que non, ça passera pas, quoi, histoire que je me plante pas.
Donc, à moins que ce soit un élément important du game design, il y a vraiment l'excuse de « mais les gens à l'époque, ils étaient comme ça » est pas valable. Il y a de la magie dans vos univers, il y a des horreurs lovecraftiennes dans vos univers. On n'en est pas à l'égalité homme-femme. Donc, à moins que ce soit un thème important, ça n'a pas de raison d'être là, surtout que souvent, ce n'est pas utilisé par les maîtres de jeu et les joueurs, ou alors pas utilisé correctement. Mais du moment que ça devient un thème qui motive les personnages et l'histoire et que le créateur de jeu donne des outils pour bien gérer ce thème, allez-y, franchement, faites-vous plaisir.
Je rajouterais que si c'est seulement pour que ce soit limitant dans certaines situations, c'est peut-être pas la peine non plus si ça apporte rien vraiment, outre un espèce de souci historique qui est en fait rarement central dans la plupart des jeux qui sortent actuellement et auxquels on joue, c'est peut-être pas la peine de trop en faire, quoi.
Moi, je voyais ça essentiellement comme effectivement des obstacles supplémentaires, donc on pouvait être géré à la fois par des personnages féminins forts, puis et aussi aidé par des personnages masculins qui
une résolution de groupe de ces problèmes, mais qui sont aussi des problèmes parce que il y a du racisme, il y a une différence entre l'homme blanc et l'indigène, entre l'homme et la femme, entre le riche et le pauvre, il y a plein de lignes de fracture dans les sociétés qui sont des lignes de fracture qui marquent vraiment cette époque, qui ont toujours pas disparu, hein, de toute façon, on est toujours dedans, mais qui sont quand même illustratrices et qui peuvent à la fois être des principes d'obstacles et d'adversité et en même temps une manière, enfin moi j'en parlerai peut-être un peu plus demain, mais de politiser le jeu alors ça reste un jeu d'aventure, donc c'est pas fort, comme je disais, c'est pas forcément ultra utile, mais ça permet aussi de mettre en valeur des personnages féminins forts, enfin je pense, mais j'en suis pas complètement sûr encore, justement c'est pour ça que je vous posais la question, quoi.
Il peut avoir aussi mettre des archétypes. Si tu mets des archétypes, avoir quelques archétypes d'exemples de personnages féminins forts, ça peut être une inspi, non ? Voilà. Mais ouais, ou des inspi. Genre, bah, dans Downton Abbey, il y a plein de femmes qui sont dans un système hyper aristocratique, hyper voilà, mais hyper insérées dans un système qui est quand même dégueulasse et hyper injuste, mais qui sont des femmes fortes. Où tu prends, je sais pas, si on reste dans Trône de Fer, Catelyn Stark, qui est bien dans un archétype de femme qui est dans un système et qui arrive à prendre du pouvoir dessus, quoi. Ça peut être dans les scénarios aussi, si t'en fais, il peut avoir plein de trucs, ou des conseils OMJ, quoi. Tu vois un peu la manière de Night Witches, le sexisme, mettez-leur dans la tronche pour leur permettre d'émerger, quoi. Ça peut passer par là.
Mais du coup, ce qu'on voit là, c'est que si la plupart des jeux où c'est bien fait demandent aux joueurs de jouer des femmes. Donc la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que ça va impacter tout le groupe ou une partie du groupe ? Et s'il n'y a pas de femmes dans mon groupe, est-ce que c'est quand même toujours un élément important du jeu ? Si la réponse est non, c'est peut-être que ce n'est pas assez central pour mériter d'être là. Mais ça peut impacter des personnages masculins parce qu'on traite mal leur mère ou leur femme. Il y a plusieurs façons de mettre ce thème, même en absence de personnages féminins.
Non, pas de femmes dans le frigo.
Non, mais je veux dire, sans les tuer, ça peut être par exemple, ton personnage a une sœur qui veut faire des études et il n'y a pas moyen. Ça peut être, tu vas être au proie avec une société où, par exemple, il y a plein de femmes qui sont gardées à la cuisine alors qu'elles auraient des trucs à dire. Ça peut être, faut juste se demander, est-ce que c'est assez présent pour impacter les personnages masculins en l'absence de personnages féminins, je pense.
Plusieurs lignes de fracture qui sont un peu différentes, comme le blanc, le diène, l'homme, la femme, le riche, le pauvre.
groupes, de toute façon, seront impactés à un moment donné par l'une de ces failles. Mais,
s'il y a plein d'autres thèmes et d'autres failles, peut-être que tu n'as pas besoin de rajouter ça en par-dessus.
Sinon, file-leur des points bonus en résilience, volonté, point de destin, pour montrer qu'elles en chient, du coup, elles sont plus fortes. Ouais.
Alors, le temps tourne. On a encore peut-être le temps pour une, deux questions.
Non, je voulais juste en fait réagir.
Commentaire de Daniel.
Je ne sais pas si c'est parce que je suis en civilisation ou pas, mais je me disais, ouais, si en fait tu écris quelque chose qui se passe à l'époque victorienne, c'est qu'à base, tu as envie de faire quelque chose de différent et qui porte sur l'ère victorienne, même si c'est une ère victorienne qui peut être un peu fantasmée. Et moi, ça me gêne d'avoir des époques différentes où en fait, on a toujours les mêmes thématiques. Si on est dans l'époque victorienne, oui, l'époque victorienne, c'est une des périodes qui a été horrible pour les femmes parce que c'est le moment où en fait, on perd le pouvoir scientifique, par exemple. C'est là où on nous renvoie en fait aux cuisines en disant ok, bah, c'est fini, la science c'est pour les mecs. Donc je pense que oui, c'est intéressant d'avoir cette problématique-là et de montrer que les femmes, bah, elles vont être obligées de trouver d'autres moyens en fait de s'en sortir pour avoir accès à la science, à l'éducation voilà. Donc à la fois elles sont brimées. Et alors sans tomber aussi dans les clichés de la femme manipulatrice, voilà. Mais oui, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir cette problématique. Enfin, je suis désolée, mais c'est vraiment quelque chose.
Tu parles d'enjeux où ce serait un thème central là.
Mais j'ai l'impression que c'est aussi s'il y a toutes les fractures, celle-là, elle doit y être, sans pour autant qu'elle soit totalement. Tu vois, mais voilà. Je veux dire, c'est comme si on pense au début du 20e, Marie Curie, bah ouais, mais elle est quand même arrivée là. Et voilà, ça peut être des femmes fortes, justement, montrer comment, en fait, malgré les obstacles, elle y est arrivée parce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait. Mais. Enfin, je sais pas. Voilà.
Donc, encore une dernière question du public.
Merci beaucoup. Alors c'est une question, c'est aussi peut-être une réaction. Alors, je veux dire, je fais partie d'Opal et je suis aussi très, enfin, je rejoins ce qui a été dit notamment par Coralie. Je pense qu'il y a un très gros travail de sensibilisation à faire auprès des femmes et aussi auprès des hommes très clairement sur comment réagir, parce que les hommes aussi peuvent réagir sur ces questions-là et sur la manière dont on représente les choses. Je voulais juste rebondir sur d'autres trucs. J'ai entendu, parce que je trouve qu'il y a un piège sur lequel on arrive rapidement, c'est quand on dit les femmes, les gars ou une fille. C'est que du coup, on arrive à les socialiser parce qu'on arrive à être sur la question de la représentation. Or, en fait, si on prend quatre femmes, elles vont être différentes. Si on prend quatre hommes, ils vont être différents. Même s'il y a des contextes sociaux qui font qu'il y a des comportements qui vont se surimprimer, il y a aussi cette variabilité-là. Et c'est intéressant peut-être de ne pas l'oublier et d'intégrer des questions de sociaux ou de psychosociaux dans les jeux de rôle et dans la manière dont on les aborde. Parce que ça peut ouvrir des portes d'entrée. Je rebondis sur une des questions qui a été posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a des personnages intéressants pour les femmes? Et la réaction, c'était un personnage féminin. Je suis pas sûr. Je suis convaincu personnellement de l'intérêt d'avoir des personnages féminins intéressants, mais je suis pas sûr qu'un personnage féminin soit les seuls personnages qui sont intéressants pour des femmes. Ça peut être des LGBTI, des cis ou d'autres. Et justement, je trouve que c'est intéressant de les creuser. Et quitte, vous avez parlé de femmes, du fait d'être faible ou pas, on peut très bien être un homme et être faible, et on peut ne pas s'interdire à jouer. Je trouve que c'est de la faiblesse aussi, ce qui fait l'intérêt d'un personnage de temps à autre. Et creuser ces éléments-là, je pense que ça permet d'avancer. Après, il y a des, par rapport aux effets de question de contexte, je pense à des jeux comme Crime notamment, qui aborde un peu la question de l'histoire notamment du rapport homme-femme, mais il l'aborde pas simplement sur le fait d'être une femme, il rappelle en partie la question du contexte et du mouvement justement de lutte féministe qui existe et aussi des manières d'apporter et d'approcher le sujet. Une dernière chose, il y a des pratiques, il y a la carte X qui existe, après il y a d'autres choses qui peuvent se faire. Moi, je sais qu'on joue à Altré par exemple, quand je crée des personnages, sur la fiche de personnage je propose des noms ou des prénoms qui sont plutôt masculins, féminins, voire agenré, et je laisse les joueurs se déterminer parce qu'ils ont aussi ce choix-là, et je suis sûr qu'il y a plein de petites pratiques comme ça qui peuvent se réfléchir pour avancer.
Il y en a effectivement plein, mais là on parlait surtout des conventions, parce que nous les problèmes qu'on nous fait remonter avec Jérôme arrivent surtout en conve, et on est d'accord sur le papier, hein, jouer des personnages LGBT et couilla, évidemment, mille fois oui, sauf que moi je connais quelqu'un là-bas qui est arrivé avec des prêts tirés pour faire jouer à Cobbs dont deux étaient homosexuels. Il en parlera peut-être lui-même, mais on lui a refusé en fait. Voilà, c'était peut-être il y a plusieurs années, mais c'est arrivé, quoi. Donc, il y a des initiatives qu'on essaye de mettre en place là-dessus. Notamment, je vais peut-être essayer de me rapprocher de certaines associations de droits des femmes ou de certaines associations LGBTQIA pour voir s'il y a moyen d'avoir des outils en commun, s'ils peuvent nous donner des outils, peut-être, évidemment, même des fois légaux, parce que bah, des fois, tout ça, ça va très loin et qu'on ne sait jamais comment réagir. Justement pour essayer d'avoir peut-être une réponse plus formelle à donner, parce que là moi où je me sens impuissante, c'est que j'accueille des témoignages de joueuses avec qui je discute, mais j'ai pas l'impression qu'on règle les problèmes de fond, en fait. Voilà, je sais pas comment le dire, et c'est ces pistes là qu'on cherche. Ce que tu dis, c'est effectivement des pistes possibles, quoi.
Moi, je voudrais rebondir en fait sur ta première réflexion, c'est-à-dire sur la question de l'essentialisation. Je pense qu'au contraire, c'est hyper important de réfléchir en catégorie de genre, de femmes, d'hommes, en même temps que penser le jeu de rôle et nos comportements, en règle générale, en termes de classe aussi. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas une question d'essentialiser, qu'on fait des grands blocs, les hommes, les femmes, c'est qu'on a des comportements qui sont inscrits en nous par une socialisation et pas... Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, et il faut pas avoir peur de se dire « je fais une généralisation », parce que c'est des grands traits qu'on retrouve.
Alors c'est un sujet passionnant, il y a encore quelques mains qui se lèvent dans le public, mais on va malheureusement devoir s'arrêter là, afin de laisser encore du temps à la seconde table ronde de ce soir. Un grand merci aux intervenants, je reprends les applaudissements.